14-18. 100 ans déjà.
Le lycée Jean Jaurès célèbre la guerre 14-18.
Bonjour à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la chronique avec les élèves de littérature et société de Jean Jaurès. Nous allons débattre à propos de la Grande Guerre avec M. Moisé, ancien professeur d'histoire et historien. Au tout début de notre projet, nous l'avions rencontré à la Maison de la Mémoire et nous souhaitions le retrouver à la fin de la réalisation pour pouvoir discuter avec lui. M. Boulet, qui s'occupe de la Maison de la Mémoire, n'a pas pu être avec nous pour ce débat. Maintenant, nous allons laisser place aux questions et aux réponses.
Durant la guerre, quels journaux utilisaient le plus la propagande au niveau local et au niveau national ?
La propagande, ce que j'appellerais moi le bourrage de crâne. Parce qu'au départ, on est évidemment dans un discours patriotique. On va défendre la République. On est dans une guerre juste. Tous les journaux sont unanimes. Il y a très peu de propagande ou d'expression d'un refus de la guerre. Quelques révolutionnaires, quelques socialistes révolutionnaires, mais très peu nombreux. Il y a là une acceptation, je devrais dire une résignation à la guerre. On ne veut pas la guerre, c'est l'Allemagne qui en est coupable, et donc on l'accepte et on défend la République. Et tous les journaux vont, au début, participer à cette propagande, à cette défense de la République, à cette idée de guerre juste. Et on le voit à tous les niveaux. Ici, le bulletin paroissial, par exemple, à Sainte-Afrique, qui, si vous avez pu les feuilleter à la Maison de la Mémoire, vous avez l'Union catholique, le grand journal quotidien du département, mais vous avez aussi l'Express, l'Éclair de Montpellier, vous avez la Dépêche de Toulouse, c'est pas la Dépêche du Midi à ce moment-là, où tous les grands journaux, l'Excelsior, qu'est-ce qu'il y a encore, Le Temps, hein, tous les grands journaux. Alors, il va de soi que cette union sacrée, puisqu'on l'a ainsi appelée, cette unanimité presque totale pour la guerre, cette résignation, ne va pas totalement durer. Il y a, dès 1915, des petites anicroches, des désaccords. Hein, on croyait que la guerre serait courte et victorieuse, et puis ça ne l'est pas. La guerre dure, les difficultés arrivent, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, et donc les journaux vont parfois être amenés à formuler des critiques, à exprimer. Donc il ne faut pas croire que la propagande par les journaux est la plus efficace. En revanche, on retrouve une constante de cette propagande, en faveur de la guerre, surtout dans les cartes postales, dans ce support très populaire de la correspondance entre Français.
Et vous pensez que dans 100 ans ou 200 ans, on parlera encore de la Première Guerre mondiale ?
Dans une lettre, un soldat de Combray, qui est un petit village à côté de Sainte-Afrique, peut-être que vous connaissez, dans une de ses dernières lettres, il écrivait à sa femme « Dans 100 ans, on ne parlera plus de nous. » Et voilà que nous fêtons le centenaire. Alors, ce poilu, Poujade, puisque tel est son nom, craignait peut-être que la mémoire des combats ne soit oubliée. Alors, il se trouve que ça n'est pas le cas. Je crois que l'important, en tout cas pour moi, c'est pas de savoir si on continuera à parler de la guerre 14-18. C'est en parler dans quels termes et pourquoi. Longtemps, dans les années 20, les soldats voulaient qu'on parle de la guerre parce qu'ils se considéraient comme des héros, mais parce qu'ils voulaient surtout que leurs souffrances, leurs sacrifices, les morts, eux étaient peut-être vivants, mais 1 400 000 morts, ça compte hein, dans un pays, surtout un pays comme la France, qui avait une natalité relativement médiocre. Ils pensaient que ces sacrifices-là devaient être une garantie pour la paix et la der, que surtout ça ne puisse pas revenir. Parler de la guerre, ce n'était pas vouloir la guerre, c'était la citer comme quelque chose d'horrible que l'on fait parce que les événements l'imposent, que l'on assume parce que le patriotisme y conduit et que l'éducation républicaine fait qu'on accepte cette guerre-là, mais pas parce qu'elle est agressive, parce qu'elle est défensive, mais en même temps qu'on ne revoit plus de telles horreurs. Et le discours des anciens combattants était un discours aussi de paix, certes, d'héroïsme, de glorification de leur sacrifice, mais en même temps, plus jamais ça. Et je crois que c'est cela qu'il faut peut-être valoriser. Ces hommes au front, les civils à l'arrière, les épouses, les filles, les mères, ont subi elles aussi autrement cette guerre. Et quand on évoque les sacrifices consentis, ça doit être pour dire oui, c'est parfois utile, la démocratie, défendre la liberté, ça peut imposer des sacrifices, on les assume. Mais ce n'est pas l'objectif de la revanche ou de glorifier la violence. Or, il se trouve justement qu'avec la guerre 14-18, et moi c'est pour ça que j'en parle, que je souhaite qu'on en parle encore longtemps, a eu cet effet qu'un historien appelle la brutalisation de la société. C'est-à-dire, on va donner parfois non plus la valeur de paix, de solidarité, de liberté à défendre, mais au contraire, le goût de la violence. Cette guerre a perturbé les esprits, a modifié les valeurs, et on sait que c'est quand même à cause de ça que cette guerre 14-18 est indirectement cause du fascisme et du nazisme après, avec des liens que vous étudierez ou que vous avez peut-être étudiés. Donc, vous voyez, oui, parlons-en. Oui, évoquons justement les sacrifices qui ont été assumés, mais faisons-le en rappelant aussi que c'est parce que ces gens-là croyaient en la paix, croyaient en la justice, qu'ils avaient ce sentiment de combattre pour elle, mais surtout pas pour glorifier la violence brutale et la mort de millions d'hommes. Surtout, plus jamais ça. Or, le problème, c'est que 20 ans après, le traité de Versailles, 20 ans après, on a remis ça, et pour une chose encore plus effroyable.
14-18. 100 ans déjà.
Et quel impact a eu la Première Guerre mondiale sur l'économie centrafricaine ?
En termes immédiats, un effet négatif. Puisque du fait de la mobilisation des hommes, comme partout en France, c'est un fait général, des petites entreprises, on est dans une région de petites activités textiles, industrie du bois, petite chimie, cette guerre va faire que des ateliers, comme on disait à ce moment-là, ferment. Et puis, une activité va se maintenir, celle qui est directement liée à l'armée, par exemple la fabrication de tissus, de draps militaires, à Sainte-Afrique ou à Verzol. On a des petites entreprises qui vont continuer et qui auront du travail. On a une entreprise qui aurait dû fermer, une entreprise de bois, mais qui va se reconvertir et fabriquer des caisses à munitions. Certes, ce n'est pas une production essentielle, mais enfin, quand on transporte les obus, il faut les emballer. Donc, une entreprise de Sainte-Afrique a fabriqué cela. Il y a une industrie qui a fabriqué de la chimie Choma, qui existe toujours sous différentes formes. Ça, c'est pour l'industrie. Donc, il n'y a pas de grand bouleversement. Par contre, pour l'agriculture, c'est absolument dur, ça crée effectivement la fermeture, par exemple, de certaines caves à Roquefort, faute de personnel. masculin. Fermeture momentanée, il y aura des réadaptations, mais l'activité ne reprend plus comme avant-guerre. De même, ça entraîne une chute de la production agricole. Parce que les femmes ont beau remplacer leur mari, leur père, elles sont mal adaptées aux outils, les charrues sont trop fortes pour eux, d'autant que une partie du bétail, des chevaux de trait ou des bœufs, ont été réquisitionnés par l'armée. Donc on se retrouve sans animaux de trait ou moins. Donc il y a une chute de la production. Et troisième conséquence, la hausse des prix. Dans nos régions, du fait des pénuries, du fait de la restriction imposée, mais le prix de la viande augmente quand il y en a, le prix de la farine augmente, le prix du vin augmente, on manque de sucre, on manque de chocolat. On a les perturbations habituelles d'une guerre déjà connue.
À mon tour de vous poser une question, mais je voudrais la poser aux élèves plutôt. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire de commémorer ce centenaire? Et vous, qu'est-ce que vous avez à retenir de cette commémoration et de la manière dont on l'a travaillée?
Oui, c'est nécessaire de fêter le centenaire. Parce que, comme M. Moiselle l'a dit, c'est un sacrifice dont il faut se souvenir.
Et on l'a abordé d'une façon différente qu'en cours d'histoire géo, car... C'est basé sur des extraits de magazines que ce sont des historiens qui ont fait, et on l'a vu d'un autre côté que si ça aurait été plus pédagogique en histoire.
Le groupe de littérature et société a été très heureux de construire tout au long de cette année scolaire les chroniques sur la Grande Guerre. Nous vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. Un grand merci à M. Moiset, M. Boulet et toute l'équipe de Radio Centrafrique qui nous a beaucoup aidés. Et un merci particulier à la famille de M. Cotte, dont l'album de correspondance de cartes postales qui nous a permis de construire notre fil rouge.
La dernière carte postale choisie dans l'album de M. Cotte montre un soldat de retour de la guerre. Il retrouve sa bien-aimée à l'entrée de leur maison très fleurie, c'est une petite chaumière. Il se regarde droit dans les yeux, ému, se tenant les mains. Les personnages sont représentés par des enfants. On peut observer un petit porcelet tout rose sur le seuil de la porte. Le soldat est vêtu de l'habit militaire anglais. Sa femme est très jolie, on dirait une poupée, habillée de couleur claire. Elle est pieds nus et elle regarde son soldat avec beaucoup d'amour. En bas de cette carte postale, qui est en couleur, il est écrit une phrase en anglais avec la traduction française « Reviens-nous. » Sur le côté de la carte, Louis a écrit « Bon baiser de papa. »
Bien chère Louisette, par ces mots, je viens te féliciter encore une fois de ton succès. Vraiment, c'était bien, ton dû. Car maman m'avait déjà dit plusieurs fois que tu travaillais avec beaucoup d'ardeur et qu'elle était très contente de toi. Tu ne sais pas le plaisir que ça me fait lorsque maman me dit « Je suis très contente des petits. À présent, ton examen passé. » Tu pourras un peu mieux aider maman dans le petit ouvrage de la maison. Ce qui fait que ça la soulagera un peu, car je sais qu'elle a d'autres occupations. Dis aussi à cette petite maman que je viens de recevoir sa lettre du premier et que je suis heureux qu'elle ait reçu de mes nouvelles. Je suis toujours en bonne santé et suis très content qu'il en soit de même pour vous tous. J'aurais bien aimé te faire un petit cadeau pour te récompenser, mais ici il n'y a rien. Puis il faut ajouter que je ne suis pas riche. À la première occasion, je saurai m'en rappeler. Bon baiser de ton papa qui t'aime. Embrasse maman et Gustounel pour moi et dis-leur qu'il me tarde bien de vous voir tous. Louis.
Bien, alors, pour cette dernière chronique, je voudrais tout particulièrement remercier M. Moiset donc, de s'être prêté au jeu des questions-réponses. Le remercier aussi de nous avoir lancé dans notre travail lors de notre première rencontre à la rentrée. Je voudrais remercier les élèves aussi de toute cette participation active, même si des fois ça a été plus ou moins difficile. C'est vrai que, comme l'a dit l'un d'entre vous, on a travaillé de manière différente. C'est l'avantage aussi de cet enseignement de littérature et société. Et puis je voudrais remercier aussi tout le personnel de Radio Centrafrique pour leur accueil, leur soutien technique. Et merci aussi à mes collègues qui donc, ont été les chevilles ouvrières de ce travail sur plusieurs mois, en espérant que tout le monde y trouvera un intérêt, et surtout que l'an prochain, d'autres élèves reprendront le flambeau. Merci.
14-18. 100 ans déjà.
Le lycée Jean Jaurès célèbre la guerre 14-18.